Il est tout juste 18h.
On arrête quelqu'un sur des simples présomptions, sur une dénonciation, et on ne va pas plus loin et on l'accuse. C'est grave, c'est grave.
L'ADN a donc parlé, Europe 1 vous le révélait dès la mi-journée. L'homme arrêté en Écosse hier n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Dans un instant, les explications de Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Les habitants de Rouen, de nouveau dans la rue aujourd'hui, ils réclament toujours plus de transparence des autorités.
À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si notre région a été impactée et comment elle a été impactée. C'est vraiment, il y en a marre, quoi.
Dans ce journal, nous serons à la frontière entre la Turquie et la Syrie. L'offensive turque contre les Kurdes continue. 100 000 personnes ont déjà fui les bombardements.
Et puis cette vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux, un élu RN au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui exige qu'on fasse sortir une femme voilée qui accompagnait un groupe d'enfants.
Je vais vous demander, au nom de nos principes laïcs, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît.
On est ensemble jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1.
Depuis hier soir, on se demandait, Fabienne Lemoyle, qui était donc l'homme arrêté à sa descente d'avion à Glasgow, en Écosse. Eh bien, l'ADN a parlé.
Les Europe 1 vous le révélaient dès le journal de la mi-journée. Cet homme, Guillaume Bier, n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, recherché depuis 8 ans.
Exactement, c'est la science qui a parlé, la génétique, l'ADN, que certains appellent à tort d'ailleurs la reine des preuves, mais en l'occurrence pour identifier assurément quelqu'un, c'est la technique la plus fiable. Et donc le résultat de la comparaison ADN s'est avéré négatif. Le suspect intercepté hier à l'aéroport de Glasgow n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que dès hier soir, quand l'information de sa probable arrestation est sortie, toutes les sources que nous avons contactées gardaient toujours une certaine prudence, et le procureur de Nantes également, parce qu'en matière d'enquête et de police judiciaire, tant qu'il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de certitude. Et hier, cette comparaison ADN, hier soir, n'avait pas encore été faite, d'où la prudence et la retenue de certains enquêteurs et responsables de la PJ. Sachant que dans le même temps, la police écossaise avait comparé les empreintes digitales du suspect à celles de Xavier Dupont de Ligonnès, et que les Écossais ont annoncé à la France que ça matchait, que les empreintes digitales correspondait. Or, on sait maintenant que c'était un faux résultat positif parce qu'en réalité, en Écosse, il a suffi de 5 points de convergence pour considérer que les deux empreintes correspondaient, alors qu'en France, le minimum, c'est 12 points de convergence, 12 points communs, si vous préférez, entre deux empreintes. Donc la réponse positive des Écossais hier soir reposait en fait sur une analyse partielle. Il fallait de toute façon l'ADN pour avoir une certitude, et c'est maintenant le cas, c'est négatif.
Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Alors, ce qui a fait grandir les doutes sur l'identité de l'homme arrêté en Écosse, ce sont aussi les témoignages des voisins de Guy à Limay, dans les Yvelines.
En particulier Jacques, qui avait confié à Jean-Gabriel Bourgeois cette nuit que les enquêteurs faisaient une boulette, que son ami Guy, arrêté donc en Écosse hier, n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Et forcément, c'est avec une grande joie qu'il a accueilli ce dénouement.
Grand soulagement, malgré qu'on savait pertinemment que ce n'était pas lui. Et puis maintenant, à savoir comment Guy et son épouse vont se remettre de cette galère dans laquelle ils ont été, malgré eux, et par un manque, je pense, ça c'est mon avis personnel, un manque de sérieux des différentes polices françaises et puis écossaises. On arrête quelqu'un sur des simples présomptions, sur une dénonciation, et on va pas plus loin et on l'accuse. Pour s'apercevoir le lendemain, comme je l'avais dit, que c'était un pétard mouillé, que c'était pas lui, quoi. C'est grave, c'est grave. Mais bon, soulagé parce que voilà, ça y est, on sait qu'il va retrouver ses proches et ça, c'est bien ça.
Voilà, Jacques, un voisin à Limay de cet homme qui a donc été arrêté hier après-midi en Écosse, qui se trouve toujours à Glasgow, qui a été entendu par les policiers français et écossais. On rejoint justement en Écosse notre envoyée spéciale Johanna Chabaz. Vous vous trouvez devant le commissariat où cet homme se trouverait depuis hier soir.
Oui, et il est très difficile de savoir où en est l'interrogatoire de Guigy. Est-ce qu'il est toujours entendu par les enquêteurs? Est-ce qu'il est dans le bâtiment? C'est impossible à dire parce que la police écossaise ne communique pas. Elle reste extrêmement prudente. Elle n'a même pas officiellement confirmé que l'homme arrêté n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Pour les policiers écossais, l'enquête est toujours en cours et ils cherchent encore à vérifier l'identité du suspect. Ce qui est sûr, c'est que la police écossaise est à l'origine de l'arrestation de Guigy hier soir. C'est elle qui a reçu un témoignage disant que Xavier Dupont de Ligonnès partait de l'aéroport de Roissy pour arriver à Glasgow. Elle l'a ensuite transmis aux enquêteurs français qui sont arrivés trop tard sur place à Paris et donc les Écossais sont intervenus à l'arrivée de l'avion. Des enquêteurs français seraient d'ailleurs en ce moment même dans le commissariat. Ils pourraient s'exprimer dans la soirée sur l'avancée des investigations.
Johanna Chabas, envoyée spéciale à Glasgow pour Europe 1.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce soir, sur ce qui est donc une méprise au bas mot, puisqu'on le répète, l'homme arrêté en Écosse n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. On y reviendra dès 18h15 avec notre invité Jean-Marc Bloch, ancien directeur de la SRPJ de Versailles.
Il est 18h05, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle, Wendy Bouchard.
On prend maintenant la direction de Rouen avec une nouvelle manifestation cet après-midi. Des habitants toujours aussi défiants à l'égard des autorités, deux semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol et malgré la venue hier encore de trois ministres sur le terrain.
Et c'est Hélène Terzian qui a suivi le cortège pour Europe 1.
Plus de 15 jours après, les slogans, les pancartes et les masques sont toujours là, mais après l'émotion, le choc, le temps est à la transparence, insistent les riverains, lassés comme Myriam de devoir aller à la chasse aux informations.
C'est illisible quand on essaie de voir sur Internet les résultats de la préfecture, c'est vraiment fauchimiste. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si notre région a été impactée et comment elle a été impactée, c'est-à-dire de quel produit, qu'est-ce qui va s'en suivre surtout. C'est vraiment, il y en a marre, quoi.
Et ce n'est pas la venue hier de trois ministres pour un comité de transparence qui apaise leur colère. Inès est membre du collectif Lubrizol qui regroupe plusieurs milliers de riverains. Il n'était pas invité à ce comité.
C'est quoi cette transparence? C'est pas de la transparence. Même en tant que citoyen, n'importe quel citoyen aurait pu rentrer pour moi à cette réunion. Ça pousse à manifester, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans la rue, parce qu'on aimerait bien être entendu une bonne fois pour toutes.
Des manifestants qui continueront de mettre la pression dans la rue, disent-ils, tant qu'il le faudra. Rouen et l'Interzian, Europe 1.
Autre manifestation cette fois à Paris, Fabienne Lemoyle, plusieurs milliers de personnes venues manifester leur soutien aux Kurdes de Syrie qui doivent faire face à l'offensive turque depuis mercredi.
Et ce sont déjà plus de 100 000 personnes qui ont fui les bombardements selon les Nations Unies. On retrouve à la frontière entre la Syrie et la Turquie notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini. Et les opérations militaires se poursuivent, Jean-Sébastien.
Et en plus des opérations au sol, l'armée turque continue de pilonner à distance les forces kurdes. Principal objectif de l'artillerie positionnée ici à Akçakale, la ville de Tall el-Abyad. Elle est à peine plus d'un kilomètre d'ici, parfaitement visible sur cette vaste plaine. Une plaine où s'élèvent parfois de minces colonnes de fumée. Elle témoigne des combats qui s'étalent sur le nord de la Syrie, sur toute la zone défendue par les forces kurdes. Celles qui ont combattu contre Daesh et que les Turcs considèrent comme terroristes. Des forces kurdes qui ont posté ces derniers jours par des tirs d'obus. Les quartiers d'Akçakale qui bordent la frontière ont été touchés. Certaines maisons ici se trouvent face au barbelé qui sépare Turquie et Syrie. Là, les rues sont quasiment désertes, volets fermés, rideaux de magasins tirés. Seuls quelques petits groupes de personnes se forment à mesure que l'on s'approche du centre-ville. Des groupes d'hommes principalement qui répètent en boucle leur soutien à l'opération de l'armée turque pendant que des haut-parleurs les abreuvent de chants nationalistes.
Jean-Sébastien Soldaini à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et ce soir, l'Allemagne annonce qu'elle stoppe sa livraison à la Turquie d'armes qui pourraient être utilisées dans le nord-est de la Syrie contre les Kurdes, annonce faite par son ministre des Affaires étrangères.
La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis hier soir. On y voit un élu du Rassemblement national exiger de la présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qu'elle fasse sortir une mère d'élèves qui porte un voile.
Racontez-nous, Théo Manval, ce qui s'est passé exactement dans ce qui était au départ une simple sortie d'une maison de quartier.
Oui, un groupe d'enfants d'une dizaine d'années venus de Belfort, invité à assister au débat du Conseil régional. Lorsqu'il s'installe dans la tribune réservée au public, l'élu RN Julien Oudoul remarque que l'une des mères qui accompagne la sortie porte un voile noir sur la tête.
Je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïcs, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Nous sommes dans un bâtiment public. Madame a tout le loisir de garder son voile chez elle, dans la rue, mais pas ici. C'est une provocation insupportable. La vigilance citoyenne, c'est aussi ça, madame la présidente.
Vous l'entendez, les débats s'enveniment. La présidente socialiste de la région Bourgogne-Franche-Comté prend le temps d'examiner les textes, ni le règlement interne du conseil régional, ni la loi, explique ensuite Marie-Guitte Dufay, n'interdisent effectivement le port du voile dans cet hémicycle.
La loi interdit les signes de distinction dans le milieu scolaire. Elle n'interdit pas dans l'espace public. Donc la loi n'interdit pas. Il n'y a aucune raison que cette personne sorte.
Là-dessus, les élus du Rassemblement national se lèvent et quittent la séance. Le groupe d'enfants fait rapidement de même. Certains en pleurent, selon les journalistes de la presse locale. La directrice de la maison de quartier que nous avons pu joindre ne souhaite pas réagir. Elle regrette, je cite, d'avoir été instrumentalisée par des groupes politiques. Dans un communiqué, la présidente de région évoque, elle, la possibilité de porter plainte après ce qu'elle qualifie, je cite, de déferlement de haine.
Théo Manval.
Des principes laïcs à respecter à la stigmatisation de l'islam. C'est un sujet qu'on évoquera aussi avec, à partir de 18h30, Mohamed Sifaoui, qui publie Taqiya, comment les frères musulmans veulent infiltrer la France, aux éditions de l'Observatoire. C'était le journal présenté par Fabienne Lemoyle sur Europe 1. À demain. Merci Fabienne.